VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Il est 11h à Nouakchott, midi à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Au Mali, le vérificateur général a rendu son rapport sur la corruption en 2013 et 2014. Il l'a remis en main propre au président Ibrahim Boubacar Keïta, qui a fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Morgane Guiriec.
Ibrahim Boubacar Keïta avait affirmé en présentant ses vœux que 2014 serait l'année de la lutte contre la corruption. Amadou Ousmane Touré, le vérificateur général, a pris ses mots à la lettre. Son rapport est très précis. En deux ans, 153 milliards de francs CFA ont manqué dans les caisses de l'État malien à cause de la corruption et de la mauvaise gestion. Presque aucun service n'est épargné. Le fisc, les douanes, les domaines, les services sociaux, sanitaires et même l'éducation. La corruption gangrène l'administration alors que le pays est sous perfusion de la communauté internationale. Ce dernier rapport finira-t-il dans des tiroirs poussiéreux comme les précédents? La balle est maintenant dans le camp du président malien.
Mali toujours, intensification des efforts de la communauté internationale et des acteurs politiques maliens pour que la signature des accords de paix d'Alger ait lieu comme prévu le 15 mai à Bamako. Notre correspondant dans la capitale malienne, Kassim Traoré, nous en dit plus.
Le président de la République du Mali a rencontré la médiation. Les buts étaient d'échanger sur les voies et moyens de rétablir la calmie dans la région nord suite aux récents regains de tensions et aux violations du cessez-le-feu et de faire progresser le processus de paix en perspective de la signature de l'accord de paix et de réconciliation nationale le 15 mai prochain. Monji Hamdi, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Mali.
Nous exhortons toutes les parties prenantes maliennes de s'abstenir des hostilités sur le terrain et de rester engagé dans le processus de paix qui va conduire à la signature de cet accord le 15 mai.
À l'Union européenne, la signature de l'accord d'Alger le 15 mai prochain est une préoccupation quotidienne. André Vieleki, chargé d'affaires à la délégation de l'UE à Bamako.
L'Union européenne ne ménage pas ses efforts, je peux vous assurer, pour que effectivement ce 15 mai, les trois parties signent le texte d'accord. Ce qui est très préoccupant, et c'est vraiment un appel de l'Union européenne, mais aussi des autres membres de la médiation, est de respecter le cessez-le-feu. L'accord prévoit des mécanismes de confiance entre les parties pour qu'effectivement la sécurité et la paix reviennent dans le nord du Mali.
L'ancien premier ministre malien pense que le Mali doit tout faire pour tenir la date du 15 mai prochain. Moussa Mara.
Vous savez, il y a beaucoup d'acteurs de la crise qui n'ont pas intérêt à ce que la crise soit résolue, qui vivent de l'insécurité, soit de pillage, soit de brigandage de toutes sortes, soit simplement de représentation dans les capitales occidentales, de séjour dans les grands hôtels et autres. Et qui n'ont pas intérêt à ce que les choses soient tranquilles, parce que quand les choses seront tranquilles, il va falloir venir sur le terrain, il va falloir faire campagne, il va falloir être élu. Certains n'ont pas l'habitude et surtout n'ont pas les masses derrière eux pour avoir ces responsabilités.
La délégation de l'Union européenne est actuellement au four et au moulin pour faire venir tout le monde à Bamako.
On a encore parlé avec les réfractaires. Nous avons essayé de leur expliquer pourquoi il serait bien, non seulement pour eux, mais aussi pour le Mali et aussi pour l'investissement de la communauté international depuis des mois, pourquoi il serait très important qu'il signe également et qu'il soit avec nous présent le vendredi prochain 15 mai pour signer. J'espère que ces efforts, les nôtres mais aussi des autres membres de la communauté internationale, porteront le fruit et que le 15 mai sera un succès.
Après le 15 mai, si la CMA ne signe pas, elle aura une semaine pour le faire. En cas de refus, il y aura des sanctions comme le préconise le Conseil de sécurité des Nations Unies. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé hier l'évacuation prochaine de ses compatriotes vivant en Libye, où selon lui, l'insécurité croissante pousse de jeunes migrants à tenter la traversée dangereuse de la Méditerranée pour gagner l'Europe. Monsieur Ouattara s'est exprimé de la sorte lors d'un forum de deux jours sur la diaspora ivoirienne. On l'écoute.
J'ai demandé au ministre de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur de prendre les dispositions en liaison avec notre ambassadeur en Libye et en relation avec le gouvernement tunisien pour évacuer les Ivoiriens se trouvant en situation de détresse en Libye parce que, bien évidemment, ce pays est en proie à des tensions. Au regard de l'embellie économique que connaît notre pays, aucun Ivoirien n'a aujourd'hui de raison de risquer sa vie en tentant la traversée clandestine de la Méditerranée.
Le président ivoirien Alassane Ouattara.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
La lutte contre Boko Haram, le HCR s'inquiète de la décision du Niger de forcer des milliers de personnes à quitter les îles du lac Tchad après la sanglante attaque du groupe islamique nigérian dans cette région le mois dernier. Les précisions de Chérubin Dorsil.
Suite à la mesure prise par le gouvernement de Niamey, des milliers de Nigérians travaillant dans le secteur de la pêche sont obligés de quitter le lac Tchad pour regagner leur pays, rapportent les autorités des deux côtés de la frontière. Le mois dernier, les militants de Boko Haram ont attaqué l'île de Karamga, tuant au moins 74 soldats et civils nigériens. Al-Hadji Mohamed est le coordinateur pour le nord-est du Nigeria de l'Agence nigériane de gestion des urgences. Les trois premiers jours, nous avons reçu près de 4 000 personnes et un autre groupe de près de 3 000 et nous sommes en train de procéder à leur enregistrement. Les 6 ans de guerre de Boko Haram ont contraint plus de 1 million de Nigérians à fuir leurs villes et villages. L'attaque contre l'île nigérienne est intervenue 3 mois après la décision du Niger de se joindre à une offensive internationale contre les insurgés nigérians et leur projet d'imposer la charia dans le nord-est du Nigeria. Carl Steinecker, représentant du HCR au Niger, dit que les îles du lac Tchad, dont le gouvernement nigérien a ordonné l'évacuation, abritent de nombreux pêcheurs nigériens et nigérians. Si les civils nigériens peuvent repartir vers des villes de leur pays, les Nigérians, eux, n'ont pas d'autre choix sinon traverser la frontière. Les moyens de vie des gens sont détruits parce qu'on leur a dit qu'ils ne peuvent plus vivre et travailler dans le lac Tchad. Et on leur a dit, nous allons vous ramener dans votre pays. De quelles autres options disposent-ils? S'est interrogé Carl Steinecker. Les travailleurs migrants originaires du Nigeria sont évacués par camion vers l'État nigérian de Yobe, qui a été ravagé par l'insurrection de Boko Haram. C'est un retour risqué, déplore le représentant du HCR au Niger. Même si ce sont des migrants, il faut se demander, est-il approprié de les renvoyer chez eux et est-ce la bonne manière de le faire? Et la réponse dans les deux cas serait non. Quelques 16 000 réfugiés nigérians restent au Niger, ayant fui les attaques de Boko Haram contre leur village.
À l'occasion de leur sommet à Libreville au Gabon, les chefs d'État de la CEMAC, la Communauté économique des États d'Afrique centrale, ont instauré la libre circulation des ressortissants des pays du groupe, à savoir Cameroun, Gabon, Congo-Brazzaville, Guinée équatoriale et République centrafricaine. Pourquoi cette mesure n'a-t-elle pas été prise des années plus tôt? La réponse de Jean-Valentin Léama, professeur de finance à l'Université Omar Bongo de Libreville, au micro de Bagassi Koura.
Ça traînait parce que il y a en Afrique centrale un certain nombre de pays de faible démographie, comme le Gabon et la Guinée équatoriale, qui avaient des craintes d'un envahissement de la part de certains pays de la CEMAC qui sont des pays à forte démographie, donc qui craignent un envahissement.
Est-ce à dire que des pays comme le Gabon n'ont plus de crainte d'être envahis, comme vous dites?
Non, la crainte existe toujours, mais nous sommes dans une communauté. La libre circulation, elle est inscrite dans les règles de la communauté. Mais la libre circulation ne veut pas dire la libre installation aussi, à la différence justement de la communauté européenne.
Un Camerounais peut aller à Libreville, mais il ne peut pas travailler au Gabon.
Un Camerounais peut venir à Libreville, il peut venir au Gabon. La loi gabonaise dit que lorsque vous êtes ressortissant étranger, il faudrait qu'au bout de 6 mois, il faudrait que vous puissiez obtenir une carte de séjour, vous faire établir une carte de séjour. Et la question de la libre circulation donc, va être réglée maintenant par les législations nationales. C'est-à-dire que le pays, souverainement, peut procéder à un certain nombre de contrôles et tout pour vérifier si X, Y sont... Il est en règle. Et donc, deux choses différentes qu'il faut différencier, ouais. La circulation et l'installation.
Et qu'est-ce que cette nouvelle mesure de suppression des visas peut apporter sur le plan économique pour la zone communautaire?
Je vous dis, par exemple, au Gabon ici, les Gabonais partent d'ici pour aller acheter cette marchandise, les marchandises qui sont vendues dans ce marché mondial pour venir vendre au Gabon. Mais ça va contribuer naturellement à la dynamisation des échanges économiques.
Jean-Valentin Léama, professeur de finance à l'Université Omar Bongo de Libreville. Et pour terminer, le secrétaire d'État américain John Kerry a eu des consultations aujourd'hui à Paris avec son homologue français, Laurent Fabius, avant de participer à une cérémonie commémorant le 70e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com et également notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info.